C'est vrai, on voit bien dans cet évangile que Jésus n'a pas dit qui il était, hein, ses disciples, il a fait des signes. Il a fait des signes parce que. Il y a eu les noces de Cana et il a fait des signes. Les sacrements, pas des signes. Il a fait des gestes. Il a changé l'eau en vin. Il a changé l'Immaculée Conception dans sa plénitude, en source de gloire. La source de sa vie, il l'a transformée en source de gloire. Il a changé l'eau en vin. Il a fait de nous, qui sommes des petites gouttes de sang, qui ont dit oui dans l'extrême pauvreté de leur vie. Il en a fait les rois fraternels du ciel et de la terre. Il a changé le vin, il a fait des signes. Il a donné des signes. C'est pour ça qu'il dit, écoutez, si vous ne voyez pas ce que je suis, croyez au moins à cause des signes, à cause des œuvres que mon Père fait à travers moi. C'est le Père qui fait cette transformation de l'eau en vin, de notre oui, de toute petitesse, de minusculité, de pauvreté, en splendeur du bel amour éternel. Et c'est vrai que les signes que Jésus fait, ce fond, c'est vrai, on le voit bien à travers les sacrements. Les sacrements sont des signes. Et c'est grâce aux sacrements que force de les vivre en profondeur, à un moment donné, le Père nous prend, et alors il dévoile qui est le Fils, qui est le Verbe, qui est l'Épouse. Il me dévoile qui il est, quoi. Quand Marie, la Sainte Vierge s'est mise à la disposition de Jésus, dans tout ce qu'elle était, en toute sa plénitude de lumière, dans sa pauvreté extrême, dans sa petitesse vraiment extrême, dans son humilité substantielle. Parce qu'on peut dire ça, hein, que la plénitude de grâce de Marie a fait d'elle l'incarnation dans la chair humaine de l'humilité substantielle. Quand l'unité substantielle a trouvé une incarnation dans la lumière de la pauvreté et de la petitesse, c'est Marie. Hein. Marie, c'est l'expression de. C'est le visage de l'humilité absolue. Jésus a assumé cette pauvreté de Marie en lui. Et il est devenu, ça on peut le dire, cette humilité substantielle à l'état divin. Et du coup, ça a fait de lui, le Père a fait de cette double humilité substantielle, de l'au-delà de l'unité de ces deux humilités substantielles, le Père a fait sourdre une huile nouvelle. L'onction messianique, la royauté messianique, l'huile dans les rouages du ciel et de la terre, le péché lui-même, est accordé à sa rédemption, à sa transformation. Le péché lui-même, j'allais dire, dans l'humilité de Jésus qui descend dans le noyau du péché, il ouvre ce péché comme une fleur, et du coup, Dieu. De ce noyau du péché dans lequel Jésus est entré avec l'humilité profonde de Marie, l'humilité de l'Église, l'onction a fait de ce péché l'occasion de souffrir et de laisser pénétrer la divinité, l'huile de la mort, dans la disparition du péché. J'ai juste abreuvé du noyau du péché. Dans ce côté vraiment satanique. Le péché, c'est de ne pas croire. Et Marie, l'Immaculée, notre foi, au fond, n'avait pas ce désir que Jésus dise qu'il était Dieu. C'était le désir, plutôt, de Lucifer. Lucifer voulait que Dieu dise qu'il était Dieu. Lucifer, Satan, voulait que Jésus dise qui il est. On le voit bien d'ailleurs à chaque fois qu'il y avait des exorcismes, des immenses, aussitôt, il fallait qu'il dise, ça tu es Dieu, Jésus, es-tu venu pour nous perdre, tu es Dieu. Lucifer voulait que cette lumière aveugle les pécheurs et que du coup ils ont mis à leur place de pécheurs, peut-être tout en étant intégrés, mais qu'ils restent à leur place loin de l'amour et de la divinité d'amour de Dieu, et de Dieu en Dieu. Mais Dieu a préféré, Dieu a une autre pensée. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a quand même expliqué, attention, je dois pénétrer dans le noyau du péché. Être broyé, anéanti par les miens. Parce que c'est pas les autres qui sont dans le péché, c'est bien nous. Être suspendu sur la croix. Et Jésus disait cela en plusieurs fois. Et encore, et ouvertement. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on aurait eu une impression, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, de penser quand on voit le récit de Jésus crucifié, la passion, tout ça. Et il me semble que je l'ai lu plusieurs fois plus. Alors que ce n'est pas vrai. Là, que les apôtres étaient tellement surpris de voir que d'un seul coup, on le prenait, on le crucifiait, qu'ils s'y attendaient si peu, que ça les a fait douter. Ils se sont dit, bon, mais ils sont partis. Et depuis, puisque c'est comme ça, c'est pas possible, non. On s'attendait pas à ça. Bref, qu'ils n'étaient pas prévenus, ils avaient vu les miracles, la résurrection des petites filles, des petits garçons, des anciens gens, les aveugles, et tout, les lépreux, et tout. C'est vrai qu'ils avaient vu beaucoup, probablement, je sais pas. On peut le quantifier, mais probablement à peu près 1 million de miracles. En 3 ans et demi, ça fait beaucoup de miracles quand même. Là, chez Dieu, il y a Saint Robert, qui était ermite, il s'est enfoncé dans la forêt. Et puis, voilà, il y avait les biches, il y avait les animaux, il y avait la neige, il y avait le froid. Et il savait Dieu, il faisait des miracles. Alors, ça attire, vous savez, les miracles. Il est venu un disciple, 2, 3, 15, 20, puis ils sont devenus moines tous là, et puis 100, puis 200, puis 2000, puis 5000. Alors, au bout de 5000, les moines ont dit à Père Robert, nous en supplions, arrête. arrêtez de faire des miracles, vous en faites trop. On s'en sort plus. Il y a trop de gens qui viennent. Alors il a arrêté de faire des miracles. Il y a trop de gens, vous voyez bien que quand et on se doutait que c'était le Messie, j'ai su dire, tu ne dis rien. Hein? Tu ne rentres même pas dans le village. Et eux, au contraire, allez-y. Ils allaient proclamer ce que Jésus avait fait. Ce que Jésus avait fait, pas ce que Jésus avait dit. Et souvent, quand vous témoignez, Jésus, vous dites ce que Jésus vous a fait. Jésus m'a fait du bien, Jésus m'a donné la paix, Jésus m'a... vraiment... délivré, Jésus. Jésus m'a guéri, etc. Mais ce que Jésus dit, c'est la parole de Dieu qui nous sauve. La pensée de Dieu, la contemplation de Dieu, c'est elle qui nous sauve. Et cette contemplation ne se dit pas, elle se contemple. Dans une vie contemplative, du silence, de l'humilité substantielle de notre prière intérieure, où nous nous effaçons pour que ce Verbe s'exprime et transforme tout. Alors, oui, nous pouvons dire qui est Jésus, le Christ, qui est Hayeshahi, qui est Yeshua. Un jour, Melchisedec s'est approché d'Abraham et il lui a fait la bénédiction et il l'a consacré prêtre. Et il a fait comme ça et il a mis la main sur ici, là. Et il l'a béni ici, dans ici sous. Il est descendu comme ça et puis il est remonté ici et il l'a mis dans son cœur, et il est redescendu ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les jasupes de prêtres, cette grande ligne comme ça. C'est la bénédiction de Melchisedec à Abraham. En fait, c'est quoi? C'est le... Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est le Shin. La 21e lettre de l'alphabet hébreu. Chine. Jésus, c'est l'au-delà du dépassement d'amour après l'effacement total et leur disparition de l'humilité substantielle de Jésus, Marie et Joseph. C'est l'humanité intégrale d'une humilité substantiellement parfaite. Le Chine, c'est le 21e lettre de l'alphabet, c'est l'exprimant de ce qu'il y a de plus bas dans ce qui est le plus bas du plus bas. C'est ça, le Chine. Sinon, ça représente la chair, ce qui est en bas, du plus bas, de ce qui est en plus bas. Et ce qui est en plus bas, du plus bas, de ce qui est en plus bas. Dans l'amour, c'est pour ça qu'ils sont trois. Ça donne le Chine. Et le Chine, c'est aller si profondément dans le bas et dans l'amour que du coup, le Père, le Yod et le Vav l'ont assumé dans le Hé. C'est comme ça que le Chine a pénétré, comme dit Midrash, comme ça le Chine a pénétré dans le nom d'Elohim. Yod, He, Chine, Vav, He. Et le nom de Dieu, qui était impensable, imprononçable, déjà matériellement imprononçable, puisque ce sont toutes Yod, des voyelles imprononçables. Ils ne sont prononçables que s'ils s'inscrivent avec dedans une consonne qui vient permettre d'avoir leur sifflement. Quand prononcer le nom d'Elohim, d'Adonai Elohim, ça se prononce comme ça, dans un souffle. Mais le souffle qui sort de la néfesse, la limite, vous voyez, c'est à la limite, ça peut se prononcer un peu comme un i, comme un parfum. La disparition de l'épouse dans l'autre, la sanité avec l'époux. Là, hein? Les nations d'Israël prononçaient le nom d'Élohim, mais seul et dans le sein des saints. Ouais. Et c'était plus commode, c'est vrai. De l'inscrire sur un parchemin, c'est pas viol, ou le nom à 42 lettres qu'ils mettaient sur un petit parchemin, qu'ils mettaient sur leur front le jour du Yom Kippour, le Yashana Rabbin. Et ce nom à 42 lettres d'Adonai Elohim, Rab Elohim, Ben Elohim, Roach Kadesh Elohim, Shemesh, Merad, Eradesh. Ça veut dire Dieu le Père, Rab. Elohim, le Père Dieu, le Fils Ben Elohim, et Dieu, Roi Kadesh Elohim, Saint-Esprit Dieu, trois en un, en trois, 42 lettres. Le peuple de la terre savait bien que Dieu, quel était son nom, quel était son fond. Il s'était révélé. J'ai entendu des évêques, des théologiens, pendant des années, affirmer avec une certitude, une expression quasi dogmatique, infaillible, que la révélation du nom de Dieu, c'est-à-dire de ce qu'il y a à l'intérieur du trois en un, en trois aspirations, processions, enfin lumière, Père, Fils, Saint-Esprit, trois en un, en trois, ça n'a été donné à la terre des hommes qu'au baptême de Jésus. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qui était marqué sur le front des nations d'Israël depuis Moïse? Vous avez déjà vu ces petits dessins où on voit les pharisiens avec un petit carré sur le front, n'est-ce pas? Les juifs de la synagogue d'aujourd'hui disent que c'est une invention de satanique des chrétiens de dire ça. De dire que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, qu'ils sont trois en un, en trois, anathème à eux, que c'est satanique de dire ça. Et ils ont caché les textes du Talmud, les textes du Galé Razaïa, les textes officiels de la synagogue qui expliquent que le nom à 42 lettres, le nom d'Elohim se prononçait, se vivait, se gardait, se conservait. Dans le secret, c'est vrai, dans une espèce de secret, ça ne se proclamait pas à tous les coins de rue. Mais ça appartenait à la doctrine infaillible d'Israël, celle que le Messie avait enseignée à Moïse. Et donc, Melchizedek a fait une bénédiction. Cette bénédiction sur Abraham. C'est après cela qu'il l'a déposé, le germe et le dépôt. On le lira peut-être, si vous voulez. J'aime bien ce dépôt. C'est agréable. Petite noix d'olive toute lumineuse, toute palpitante, toute petite. Toute indissoluble, toute fragile, toute protégée par le sacerdoce angélique, victime éternelle d'amour, sans limite. De la lumière qui s'efface devant l'amour en elle-même, substantiellement. Le Chine a pénétré dans le nom d'Elohim, Yod, Hev, Hav, Et, donc Yod, Hé. Va. Hé. J'écris comme ça parce que c'est moi qui l'écris, mais si je devais l'écrire, c'est moi qui l'écris. Comme ça. Ya, c'est toujours de droite à gauche. En hébreu. Ya. Hé. Va. Yoshim. Cette espèce de menorah à trois points. Pénètre au milieu. Yod Vavet surgit dedans de plus grande profondeur la petitesse dans le Shin et ça donne le nom de Jésus. Yeshua. Yeshua. Dans les traditions des nations d'Israël, les midrashs de Moïse, est indiqué que le nom d'Elohim est imprononçable, ce qui est bien évident. Mais qu'au jour du Messie, il deviendra prononçable. Et que tous prononcer le nom d'Elohim, parce qu'il deviendra prononçable à cause du Messie, dans le Messie. Effectivement, si vous mettez un shin dans des voyelles muettes, on peut dire eh bien, et on peut dire yes. Mais quand on dit le nom de Jésus, est-ce que vous avez déjà repéré que quand vous prononcez le nom de Jésus, vous prononcez le nom du Père qui a le lieu, le nom de l'épouse au-delà de la lumière, le nom du Saint-Esprit et de l'épouse est accompli dans la subsistance au-delà des voiles de la gloire de la résurrection, dans la toute petitesse, dans notre toute petitesse et dans l'au-delà de notre petitesse et au-delà des trois grandes petitesses, de l'avant, du pendant et de l'après, de l'existence de l'univers. Le nom de Jésus nous appartient et nous donne autorité. Sur ce temps, Satan, c'est un chine aussi, Satan. Un ta et un non. Ça veut dire dans la chair. J'irai, il a été envoyé en bas. Il a préféré ça. Il a été envoyé dans notre univers, dans le monde des ténèbres. Et dans mon anéantissement, je ferai en sorte que la croix, le ta, se prolonge. Anéantissement. Je veux crucifier jusqu'au bout. Et je prononcerai ma haine d'anéantissement toute chair que j'ai rejoint dans ma réprobation. Eh bien, face à Satan, nous avons le nom de Jésus. Donc Jésus nous appartient. Dieu s'est donné à nous. Le Père est là, comme dans l'amour, comme don. Il n'est pas envoyé, il est là. Dans cette immense profondeur de notre humilité substantielle. Et atteindre notre humilité substantielle. On peut en faire un plat, mais l'humilité substantielle, c'est différent. Vous savez, l'humilité substantielle, on atteint cette humilité substantielle qui est la nôtre à travers, oui, le signe à travers, l'humilité vraiment substantielle de l'Immaculée Conception, l'incarnation de cette humilité. L'Immaculée Conception, c'est bien ça. Et l'union hypostatique de Jésus aussi. Et Saint-Joseph aussi, le Père, parce que Saint-Joseph, il s'est ajusté substantiellement à l'autorité sponsale avec l'Immaculée Conception. Et il est devenu l'origine de l'unité des trois, le principe de l'unité des trois. Et c'est pour ça que l'incarnation a pu être possible. Mais à travers donc le signe, à travers ce qu'il y a de plus bas dans l'amour, voilà, nous pouvons pénétrer, descendre dans les immenses profondeurs de la petitesse et retrouver la Créateur où le Père est lui-même présent et donné. Et du coup, il engendre à travers nous le nom, c'est-à-dire la présence actuelle, personnelle, donnée, entièrement donnée de Dieu en nous. Dieu nous est donné. Et Yeshua. Et avec ce don intérieur, dans l'intérieur de l'intérieur de ce don, nous avons toute autorité sur ce qui précède la création, sur la création, et sur ce qui s'accomplit dans l'au-delà de la création après sa glorification et son accomplissement. Dit roi fraternel d'amour, nous sommes créés par Dieu comme des petits rois fraternels d'amour de l'univers, du ciel et de la terre. Voilà ce que nous enseigne le nom Sanctissime de Jésus. Et c'est là qu'on voit avec l'évangile qu'on vient de lire aujourd'hui que il faut être contemplatif quand même. Il faut avoir une vie intérieure et extérieure d'extase mystique dans notre vie chrétienne, parce que pour avoir cette liberté totale de la vie contemplative, de la vie unitive, pour pouvoir voir, pénétrer, vivre, recevoir et actuer le nom de Jésus dans le ciel et dans la terre. C'est pas uniquement en prononçant comme ça avec les lèvres, là, comme dit l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 10, c'est vrai, la confession des lèvres obtient la justification, mais c'est la foi du cœur qui obtient la justice. C'est bien, on peut commencer par la confession des lèvres. Au moins comme ça, si on le fait dans un baiser d'amour, alors ça pénètre dedans. Jésus, n'est-ce pas? Pas Jésus, mais Jésus, la confession des lèvres, si elle descend dans le cœur, elle obtient la justice, on est ajusté parfaitement. Et substantiellement, parce que ce nom intérieur de Jésus signifie, dans sa kénose, comme dit l'Épître, dans un anéantissement d'amour. Cet anéantissement d'amour nous fait comprendre que la prière chrétienne est une prière d'oppression, c'est une prière d'effacement. C'est pas une prière de cancanage ou d'inquiétude. Dès qu'il y a le moindre mouvement d'inquiétude, c'est que nous sommes en dehors du Christ. le moindre mouvement. Souvent, on parlait de ça. Repérez bien le moindre mouvement. Et à l'intérieur aussi, il y a des mouvements. Des mouvements d'irritation. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Patrick, qu'est-ce qu'il va me dire ? Ma fille, oh, comment est-ce qu'il faut passer pour prendre l'autorité là-dessus ? Le moindre mouvement d'inquiétude. Est-ce que je vais m'en sortir de mes miasmes ? Le moindre mouvement. Est une catastrophe. Le moindre mouvement peut faire péter toutes les lumières. Et s'il y a un mouvement, vous le voyez bien. S'il y a un mouvement, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Allez. Fulge s'est bougé. Ça ne peut pas le voir. C'est extraordinaire, hein? 30 ans comme ça. Aucun mouvement inutile. Aucun. Ni en Joseph, ni en l'Immaculée, ni en Jésus. Aucun mouvement inutile. Aucun. C'est... Oh, qu'est-ce que ça devait être incroyable. S'il y a un mouvement, c'est le signe que je n'ai pas renoncé. À un péché profond, à un choix que j'ai fait il y a longtemps, ordinairement il y a longtemps. J'ai dit non. Ne veux pas de Dieu. Ça peut être quand on a 2 ans, quand on avait 8 ans, quand on avait... On a essayé de retrouver toutes nos fautes, donner les brûler dans l'holocauste brûlant d'amour de Jésus, demander pardon, et simplement tout ce que vous voulez, mais... Profondément, il y en a un, celui-là. Vous savez, repérez bien, parce que si vous avez ces mouvements, c'est facile de repérer Satan, ce petit mouvement. C'est le repérage que Satan est au fond de vous. C'est pour ça qu'on fait l'exorcisme, la prière de délivrance, c'est... infestation, emprise, esclavage, etc. Et puis, tous les pièges et tous les mouvements venus du fond de l'enfer. Et ces mouvements signifient, en effet, montrent qu'il y a quelque chose en nous, un acte qu'on a commis, enfin, c'est pas un acte, c'est un choix profond, volontaire, lucide, très 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 lucide à l'époque, mais parfaitement lucide, libre, totalement nous engageant formellement, en disant non, moi je veux pas, non, je veux pas vivre cette union totale avec Dieu, non, du tout, je peux pas, je veux pas. Alors, du coup, je fais quelque chose, vous voyez, je se manifester ensuite dans les minutes ou les heures qui vont suivre par un péché plus visible, d'accord, mais repérable peut-être. Mais... Alors du coup, dès que nous avons ce mouvement, regardez le mouvement que Saint-Pierre a eu là. Il a pris Jésus à part. Il était très spontané, hein, Saint-Pierre, c'est bon. Ben Jonas. Bon Simeon, Ben Jonas. C'est assez. Moi, je l'aime bien. J'aime bien voir comment Zeffirelli a choisi l'acteur qui fait Simeon Ben Jonas. Voilà. Très émouvant de voir cet homme. Et... Moi, j'ai pleuré plusieurs fois en voyant Simon Ben Jonas dans le film de Zeffirelli. Il est très touchant. C'est exactement ça. Il a fait ce mouvement. Jésus retourne vers l'église de tous ses disciples. Vous voyez, c'est bien ça, il a pris un pas. Plus des disciples étaient de l'autre côté. Le Seigneur, quand même, tu vois, non, tu peux pas aller sur la croix. Voilà. Alors, on voit très bien, Jésus a dû le prendre comme ça. Il se met sur la droite, il s'est retourné vers les disciples qui étaient derrière. L'église, enfin, les disciples de Marie, hein, elle faisait partie des disciples, je crois. César et Philippe, sûrement, elle faisait partie de la fraternité qui suivait Jésus. Hein. Personne ne la voyait, elle était d'une discrétion. Et il dit, Satan, à Pierre, il y a eu ce mouvement, et du coup Jésus met le doigt sur le fait qu'il était possédé par Satan. Hein? Ce refus de l'amour dans la croix, nous engloutir dans le silence de la croix, ce refus de l'oraison, c'est satanique. Le ciel demande qu'on prie beaucoup pour les prêtres et les évêques du monde, pour qu'ils soient arrachés à tout ce qui en eux les empêche et leur font oublier, de s'oublier et d'être entièrement transformés en instruments divins de sanctification et de libération pour le ciel et dans la terre, dans leur raison. Alors tous les mouvements qu'ils font sont des mouvements humains. Et ce n'est pas Dieu. C'est l'humain. Et on veut tellement être humain, que du coup Dieu est jeté dedans. Et ça, c'est satané. Le seul moyen de donner à Dieu toute sa place, c'est le nom d'Eloï, le nom de Tanakh. Cette présence vivante du Père dans l'épousé. Assume et rend possible cette émanation de l'au-delà de la Jérusalem céleste, dans notre Jérusalem spirituelle de la foi, et que le silence, l'effacement, permette la présence du Saint-Esprit, cette unité vivante de lumière, d'amour, de fruition, d'éternité, de gloire. De s'exprimer dans l'épousé, de l'au-delà de tout. Dans l'effacement de cet amour, de l'époux, C'est bien ça que signifie le nom d'Elohim. Eso. Dès qu'on fait oraison, bien sûr, on voit que je suis. Et plus que Dieu le Fils, ça, oui, Jésus l'a dit, était plus que Dieu le Fils. Puisqu'il disait, vous ne pouvez pas dissocier Jésus de Dieu le Père, de Dieu le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dissocier Jésus de l'Immaculée Conception, de la Jérusalem glorieuse et de l'épousette, et de l'unité de l'Esprit Saint et de l'épouse. Vous ne pouvez pas dissocier. Jésus, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est le Paraclet, c'est l'Église tout entière, accomplie, et au-delà de son accomplissement, c'est Jésus. Yeshua. Qui me voit voir le Père. Ben, montre-nous le Père, dit Philippe. Et Jésus dit à Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps. Et tu me dis, montre-nous le Père. Le Père. C'est le Père qui fait les signes. On voit bien que l'oraison nous oblige à pénétrer à l'intérieur de la plus grande profondeur, là où la paternité dans le sein des saints, notre corps originel, de l'instant, le milliardième de seconde qui suit, je préfère dire l'instant, moi que le milliardième de seconde qui suit, notre existence fait que le Père est nous. Nous sommes engendrés comme émanation d'engendrement du Père. Donc dans le Fils, c'est évident pour dire oui. Dans une liberté spirituelle qui fait de nous les rois fraternels de l'univers dès le premier instant, en pleine lucidité, en pleine lumière, en pleine liberté, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Le Père, en nous créant, nous s'est donné. Il est donné, il est là pour toujours. Et il a fallu, c'est sûr, se sataniser à certains moments, de manière lucide, très nette, très précise, très claire, pour échapper à cette identification de au Fils et au Saint-Esprit. L'Immaculée Conception n'a jamais échappé à cette identification en plénitude de son vie. Depuis le début de son existence, donc à chaque fois, elle a approfondi son humilité, son effacement. Et cet effacement s'est incarné, s'est approfondi dans sa sponsalité, dans son unité sponsale avec son époux, avec... Elle a disparu, elle s'est effacée complètement dans tout le oui originel de Saint-Joseph, vous comprenez. Et lui, ça a établi une commotion, ça l'a introduit dans la substance même de lui-même, à l'intérieur de sa présence d'Elohim originel. Et cette lumière en lui a assuré la réciprocité des dons. Aussitôt il tombe dans le don de son humilité parfaite, dans l'au-delà de l'unité des deux. Alors, il n'y avait plus ni homme, ni femme, ni époux, ni épouse en eux. Il y avait tout. Et il y avait l'affinité avec la première unité hypostatique primordiale de toute matière, dans l'homme parachit. Et l'acte de foi, du coup, surnaturel, divin, a pu permettre au Verbe de Dieu d'assumer en Marie ce qui appartenait à cette au-delà de leur humiliation, de leur effacement mutuel dans l'au-delà du dispensable de lumière, du nom d'Elohim. Mais ça, l'incarnation ne vient pas d'autre acte intérieur de silence, d'absence de mouvement satanique dans l'au-delà du dispensable de Marie-Joseph. Ce qu'explique le Saint-Père. La dernière encyclique sur Saint Joseph. Et nous, notre raison, elle est simple, puisqu'elle consiste à part en rajouter. Il y a des gens qui croient, les pharisiens, ils croyaient qu'en en rajoutant, en faisant encore plus de bien, en faisant encore plus de... de religion, de plus en plus de religion. Et c'est ça, qu'est-ce que les pharisiens, ils étaient vertueux, ah, qu'est-ce qu'ils étaient chastes, ah, qu'est-ce qu'ils étaient obéissants, ah, qu'est-ce qu'ils étaient pieux, ah, qu'est-ce qu'ils étaient serviables. Qu'est-ce qu'ils étaient doux, ils étaient profonds, ils étaient oui, ouverts, admiratifs, écoutants, admirables. J'aime beaucoup ce mot. Et ils pensaient que du coup, Dieu les admirait. C'est admirable, ça. Dieu pouvait les reconnaître. Moi, combien de personnes, les Isabelles des paroisses, rien ne me reconnaît pas tout ce que je fais par l'Église. On ne me reconnaît pas. Je ne suis pas reconnu. Alors, quand Jésus dit à ces pharisiens-là qui sont. Il ne faut pas croire que c'était des. Souvent, les gens disent, le pharisien, c'est une bouclite. Il est fermé. Pas du tout. Les sadducéens, oui. Les sadducéens. Les hérodiens aussi, ils étaient inscrits en loge, c'était des ateliers. C'était des ordures. C'est vrai. Mais les pharisiens, vous ne pouvez pas faire plus pieux qu'un pharisien. Les pères aussi. Et du tout, avec le modèle des Hakmei Talmud, des docteurs de la loi, comme Nathanaël, Shimon Anashi, qui transfigurait lumineusement et visiblement la lumière du Messie, hein, comme Moïse, hein, qui transfigurait la lumière du Messie, puis communiquait cette présence du Messie dans tout le peuple d'Israël. Oh, c'est quand même. Dans l'onction messianique de la douceur. Hein. Les pharisiens, c'était pas rien. Alors, Jésus leur dit, Dieu ne vous admire pas. Dieu ne s'intéresse pas à vos vertus, à vos mouvements admirables. Et ils croyaient que Dieu s'intéressait à leurs vertus. Alors, Saint-Luc, qui est médecin, dit, les pharisiens, du coup, plissaient la narine. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne s'intéresse pas à nos perfections. Dieu ne s'intéresse pas aux perfections de l'homme, même de l'homme religieux, même de l'homme intérieur. Dieu s'intéresse à l'humilité, à la pauvreté, à l'anéantissement, au silence, à l'absence de mouvement, qui fait que Dieu est Dieu dans la chair. C'est le raison. Et dès qu'on repère un mouvement, disant quand même, exaspération, une irritation, une déception, un sentiment d'être trahi, pas reconnu, échec, tentation, facile à repérer, ça va se manifester dans les conséquences négatives de la conscience de culpabilité par des réactions compulsives somatiques. Quelquefois aussi, c'est marrant, ça m'est arrivé aussi, c'était 40 ans, mais je ne dis pas que ça ne me fait plus. Mais c'était ici, là, c'était là. J'avais là, sans raison, et puis j'avais un truc, ça faisait, mais je ne faisais pas gaffe, hein. Enfin je veux dire, ça faisait, Alors, on va me dire, le médecin, il va dire, c'est nerveux. Non, c'était pas nerveux. C'était pas volontaire. Hein. À d'autres moments, ça m'a atteint. Pendant 4 ans, ça me rappelle de noviciat. Dans l'oreille, le tympan, qui faisait, vous savez, comme un tambour, vous savez. Oui. Le moindre mouvement est un signe que vous appartenez encore à Satan dans l'oraison. Dans l'oraison. Alors du coup, dans l'oraison, il faut que de ce mouvement que je viens de voir, je dis Seigneur, je ne sais pas quel est le choix que j'ai fait un jour, hein, mais je sais que le choix que j'ai fait un jour pour ne pas être totalement effacé et que toi, dans ton effacement, nous soyons dans l'unité de nos deux effacements, totalement unis pour toujours et pour l'éternité dès cet instant, que ce péché que j'ai fait ce jour-là, je l'arrache hors de moi et je te le donne parfaitement et je te demande pardon et je pardonne et je reçois le pardon par rapport à ce qui correspond au péché qui se manifeste dans ce mouvement. Et je demande pardon et je le donne aussi en toute chair, en toute humanité depuis Adam qui a fait ce même choix avec ses mêmes conséquences, avec ses mêmes manifestations et pour les mêmes raisons. Et je te donne ça, je l'arrache de l'humanité tout entière. Une fois que ce moment, vous avez fait ce triple pardon qui correspond au Chine, ces trois effacements du péché, à ce moment-là, vous n'aurez plus ce mouvement. Ça prend 3 secondes. Demandez pardon pour un péché oublié que vous ne savez même plus d'où il vient ni ce qu'il est. Mais au bout d'un certain temps, quand même, vous verrez qu'il n'y aura plus de mouvement. Parce que vous n'avez pas fait une espèce d'acceptation de la présence satanique, lucidement quand même, des milliers de fois dans votre vie, comme quelquefois, sauf les insensés et les fous, c'est différent. Mais ça fait rien. Et on fait, vous voyez, comme c'est beau de comprendre Marie, ce qu'elle est. Non, elle est, non, de Dieu. Ce ne sont pas celles de Dieu. La contemplation de Dieu, c'est celle-là qui compte. C'est la sagesse de Dieu, le Père, la sagesse de la croix. C'est le mouvement éternel d'amour du Père. Dans la glorification de toutes choses. Elle a entendu ça, elle a entendu. Hein. Vous savez, chaque parole de Jésus, c'est comme l'apparition de l'ange Gabriel. Hein. Alors du coup, elle a laissé tomber tout ce qui était humain en elle. Pour ne prendre que le mouvement éternel d'amour de Dieu, du Père, la sagesse de la croix. Pour ne désirer que le mystère de la croix pour Jésus et pour l'Église tout entière. Hein, quand on voit les mères de famille, quelquefois, pourvu qu'il n'arrive rien à mon enfant, mon Dieu, je ne voudrais pas qu'il souffre. T'inquiète, t'inquiète. Hein, Marie, c'était pas ça. Hein. L'humain, c'est extraordinaire, l'humain. La maman de Saint-Louis, roi de France. C'est mon fils, je préfère te voir torturé 1000 fois, mourir 1000 fois, plutôt que de te voir une seule fois un péché. Voilà. Voilà pas une inquiétude pacifique, pas une inquiétude humaine. Hein? C'est pas. Un jour, j'ai vu la contre-création des insensés, des fous, des méchants, je crois, qui commençaient à casser la figure à mon frère jumeau. Je vous assure que humainement, c'est pas drôle. Et offrir sa propre personne, son autre soi-même, au lion, librement, c'est une pensée de Dieu. Satanique. Et c'est pour ça, je dis pas ça pour nous, je dis ça pour Marie, moi. Je dis ça pour Marie. Marie, elle a compris que elle devait avoir une joie sourde, immaculée, irrésistible, insondable, inconditionnelle. Avoir son autre soi-même, être écrasé par les lions et les serpents, dans le noyau du péché, pour la destruction du mal, et la joie éternelle. Et ça, c'était pas satanique. Et donc, un père et une mère de famille doivent faire raison. C'est sûr. Pour que leurs enfants soient des membres vivants, Jésus vivant. Mais je ne veux pas regarder ce que nous sommes. Regardez ce que Marie entend, ce qu'elle fait. Alors, si on veut raison, on découvre par vie contemplative, par la vie divine, par la sagesse, par l'esprit, une saveur de lumière, d'amour, du Saint-Esprit. Ce qui se passe à l'intérieur de Marie, dans son cœur, dans sa chair. Quand elle est envahie par cette joie, tellement envahissante, irrésistible, inconditionnelle de ce qui s'opère lorsqu'elle désire, elle veut, elle va, elle vole vers l'anéantissement du Christ sur la croix. Dans l'horizon, oui, je vais pouvoir voir ça si le soir je m'endors en désirant voir ce qui se passe en elle. L'ayant vu en elle, je ne serai pas dans l'admiration, mais je serai transformé. Et les pensées de Dieu vont remplacer en moi les pensées sataniques. Ce n'est pas la force du poignet pharisaïquement que je veux dire oui, je vais accepter la croix et la souffrance. C'est pas vrai, ça. Ça s'appelle du stoïcisme. Et Dieu sait qu'il y a eu des millions de chrétiens dans l'histoire qui sont tombés dans le stoïcisme. C'est les pharisiens, ça. C'est pas du tout admirable. La souffrance, c'est inutile. Yeshua, c'est pas inutile. On peut prendre par tous les côtés, vous voyez bien que de donner quand même la possibilité au bon Dieu d'arracher Satan de nous, pour que ce soit la contemplation de Dieu qui prenne toute la place, c'est quand même pas ni difficile, c'est même très simple. Il faut simplement une toute simplicité, toute simple tranquille humilité, disponibilité, abandon, transparence. enfance, un peu de cœur, quoi. Un petit amour. Alléluia. Merci, mon Père, de nous avoir donné Jésus. Merci de nous avoir donné. Merci de nous avoir donné. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit. Merci de nous avoir donné un papa. Merci de nous avoir fait signe.